bonjour, c'est Margot. Aujourd'hui, maman va vous parler d'allaitement.
Bonjour et bienvenue dans Naître et Grandir aujourd'hui, le podcast à destination des parents et des futurs parents. Pour ce second épisode, nous allons continuer d'aborder le sujet de l'allaitement. Aujourd'hui, nous allons parler des petites difficultés que l'on peut rencontrer dans son allaitement. Au programme, nous parlerons avec mon invité montée de lait, engorgement, mastite, toutes ces petites réjouissances qui, malheureusement, arrivent de temps en temps. Hélène nous donnera des conseils pour venir à bout de tous ces petits désagréments. Pour celles et ceux qui auraient raté le premier épisode sur l'allaitement, il reste disponible sur vos plateformes d'écoute habituelles. Je vous dis donc, bonne écoute.
Bonjour Hélène, merci de me retrouver pour ce deuxième épisode. Donc on va continuer de parler allaitement. Après s'être bien préparé avec le premier épisode, on va parler concrètement de comment ça se passe dans les débuts de l'allaitement et comment se gérer quand il y a des petites difficultés. Donc déjà, la première étape, ça va être la montée de lait. Comment faire pour que ça se passe au mieux? Comment la gérer? Est-ce qu'il y a des petits trucs, des astuces pour que la montée de lait se fasse bien et que ce soit le plus confortable possible pour la maman?
Alors déjà, on va peut-être rappeler que la montée de lait, quand c'est un premier allaitement, elle va arriver aux alentours du troisième jour, quand on est dans des conditions optimales. Si on a eu, par exemple, une césarienne, ça peut être un petit peu décalé d'une journée, arrivé à J4, voire à J5, s'il y a eu séparation avec le bébé. Mais globalement, on peut partir du principe que la montée de lait a lieu vers le troisième jour, donc vers J3. Et quand c'est un deuxième allaitement, souvent on remarque que la montée de lait arrive de manière plus précoce et qu'il y a plus de lait. Donc en gros, sur un second allaitement, il faut s'attendre à avoir plus de lait et plus rapidement. Et de ce fait, on en parlera après, peut-être une montée de lait à gérer un peu plus, pas forcément difficilement, mais voilà, avec un petit peu plus d'astuces, parce qu'on risque plus d'être engorgé que sur une première montée de lait. Et pour que ça se passe bien, eh ben, il faut être conscient, finalement, juste informé de comment ça se passe, parce que du coup, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien, si on sait comment ça se passe. Donc, au troisième jour, du fait du processus hormonal, il va y avoir les seins qui vont se remplir de lait, mais pas que. La montée de lait, en fait, il y a du lait qui arrive dans les seins, mais il y a aussi pas mal d'œdèmes avec ça. Et finalement, ce qui va être le côté compliqué à gérer, c'est de gérer tout cet œdème qui va parfois comprimer un peu trop les canaux et empêcher le lait de sortir facilement. Donc, quand on est conscient de ça, on peut faire des petites choses qui vont permettre d'avoir un écoulement de lait plus facile, d'avoir un bébé qui prend aussi plus facilement le sein, parce que plus on a le sein tendu, plus on a un bébé qui va avoir du mal de s'accrocher sur le sein.
Ok, alors concrètement, qu'est-ce qu'une maman peut faire pour aider à l'écoulement du lait et réduire la gêne que ça occasionne?
Donc, ce qu'on peut faire, c'est que quand on sent qu'il y a une tension mammaire importante et que donc la montée de lait est en train d'arriver, c'est déjà d'essayer d'assouplir l'aréole pour permettre à l'enfant de s'accrocher plus facilement et permettre au lait de s'écouler aussi plus facilement. Il y a des fois des femmes qui disent « mais j'arrive rien à faire sortir de mon sein, c'est parce que les canaux sont trop comprimés ». Et elles ont beau essayer par exemple de faire du tire-lait, bah, ça marche pas non plus parce que on n'a pas refoulé l'œdème qu'il y a vers l'arrière. Alors pour refouler l'œdème vers l'arrière, on peut faire ce qu'on appelle de la contrepression aréolaire, c'est-à-dire prendre ces deux pouces, les mettre de part et d'autre de l'aréole à droite et à gauche, effectuer une pression vers l'arrière pendant à peu près 1 minute, puis ensuite glisser ces pouces tout le long du sein vers l'arrière et faire la même chose après de l'autre côté, un pouce en haut, un pouce en bas, comprimer 1 minute l'aréole vers l'arrière et glisser de part et d'autre du sein pour bien refouler l'œdème vers l'arrière. Ça va permettre à l'eau qu'il y a dans le sein d'aller vers l'arrière et de libérer les canaux pour que le lait puisse facilement s'écouler. Et s'il y a moins d'œdème sur l'aréole, et ben du coup, l'aréole est plus souple pour permettre au bébé de mieux s'accrocher. Donc ça, L'explication n'est peut-être pas très très claire comme ça à l'oral, mais si on tape contrepression aréolaire sur Internet, il y a des petits schémas, on peut retrouver des articles de la Lechlik, par exemple, qui réexpliquent le pourquoi du comment. Et voilà, ça peut être vraiment l'astuce très aidante qui malheureusement n'est pas hyper connue en maternité, mais qui est vraiment indispensable à connaître pour s'en sortir quand on a les seins bien tendus et que ça arrive, quoi.
Ok, donc ça, je ferai un petit tuto en vidéo que je mettrai sur le compte Instagram pour essayer d'expliquer ce que tu viens d'expliquer, tout simplement. Et est-ce qu'il y a des choses à faire pour aider la montée de lait ou au contraire des choses à ne pas faire? Je me souviens par exemple que pour mon fils, une sage-femme m'avait conseillé de ne pas mettre de soutien-gorge à partir du deuxième jour. Est-ce que concrètement ça peut être une solution, quelque chose qui va aider, ou alors ça va rien changer finalement? Enfin voilà, des petites choses comme ça, de ce type-là, des petits conseils. Est-ce que tu en as?
Effectivement, il faut éviter tout ce qui va pouvoir comprimer le sein. Donc soit les seins libres, soit, si c'est pas agréable pour la maman, des brassières sans armature. Des brassières toutes simples, sans armature, il y en a certaines qui sont même faites pour l'allaitement, ou au moins les soutiens-gorge allaitement, mais sans armature, pour éviter toute compression. Et c'est pareil, tout ce qui va être coquillage, par exemple, pour protéger le mamelon, ça, on va éviter le temps de la montée de lait, parce que c'est le coquillage, du coup, c'est quelque chose de dur qui va comprimer tout le tour de l'aréole. Et c'est justement ce qu'on veut pas. On veut pas que les canaux soient comprimés en pleine montée de lait. Donc, les coquillages, on évite quand on est en pleine montée de lait. Et l'autre chose très importante, donc, on sait qu'il va falloir assouplir l'aréole pour aider le bébé à prendre le sein et pour aider le lait à sortir des seins. Mais aussi, il faut mettre son bébé au sein à volonté pendant cette période-là. Souvent, de toute façon, le bébé, il va avoir un comportement différent, c'est-à-dire qu'il sent que le lait va arriver et il va se mettre à être beaucoup plus demandeur. Il va être dans un état de demande de tétée complètement frénétique que parfois la mère associe ou même l'entourage à de la faim non comblée. Or, en fait, c'est simplement le comportement du bébé qui, on dit parfois qu'il appelle le lait. Il sent en fait que le lait est en train de changer, qu'il arrive, et donc il n'arrête pas d'en demander. Et il faut le mettre, justement, c'est l'occasion de le mettre à volonté pour bien vider les seins.
Oui, c'est ce qu'on disait l'autre fois. Plus on draine, plus le lait est produit.
C'est ça. Et dans cette mise en place, c'est très important parce que ça va éviter le risque d'engorgement. Et quand on a un engorgement qui dure trop longtemps, qui est trop prolongé parce que, par exemple, on se dit « Ah, mais il a déjà bu, donc j'attends 2 ou 3 heures », ça va être très gênant parce qu'un engorgement va donner l'information au cerveau de réduire, de ralentir la production du lait puisque finalement il y a trop de lait. Donc c'est pas ce qu'on veut quand on démarre l'allaitement. Ce qu'on veut, c'est que ça démarre à fond et donc on met le bébé sans se poser de questions au sein à chaque fois qu'il le demande et donc il peut y avoir effectivement un grand nombre de tétés à ce moment-là sans aucun rythme et ça c'est complètement normal. Vous entendrez parler de ce qu'on appelle la nuit de la Java, c'est cette fameuse nuit où très souvent les montées de lait elles commencent en pleine nuit. Et c'est les nuits-là où le bébé devient complètement frénétique et très demandeur, on appelle ça la nuit de la Java. Donc voilà, faut vraiment être conscient que, en fait, il faut se laisser guider par le comportement de son bébé, ce qui est pas toujours évident parce que quand on connaît pas, c'est très déstabilisant d'avoir un bébé qui tout à coup ne semble jamais rassasié. Alors qu'en fait c'est pas vraiment ça, c'est juste qu'il il fait son job en fait pour que la montée de lait et le lait et tout se lance bien.
D'accord. Oui, mais donc ça veut dire effectivement avec la fatigue etc, faut réussir à tenir le rythme entre guillemets du bébé.
c'est ça. Mais quand on le sait déjà, c'est plus facile parce qu'on peut se souvenir, se dire ah mais oui, ça c'est normal, c'est pas inquiétant comme comportement, c'est justement que tout se déroule correctement.
Oui, se dire que ça va passer et que ça va pas être tout le temps comme ça finalement pour pas se décourager. Parce que c'est pas toujours évident pour les jeunes mamans, on est fatigué par l'accouchement. Donc ça rassure de se dire que ça va passer.
Exactement, ça dure. La montée de lait, ça dure 24-48 heures. Alors ça peut faire un peu mal, donc on peut mettre du du froid en dehors des tétés pour soulager un peu la douleur que ça peut occasionner, c'est pas forcément obligatoire. Il y a des montées de lait qui se passent sans douleur, avec juste une tension mammaire et pas du tout d'engorgement. Ce qui différencie la tension mammaire de l'engorgement, c'est justement le fait qu'il y ait de la douleur, que le lait coule plus difficilement et que le bébé n'arrive pas à prendre le sein. Mais parfois, il y a des montées de lait avec simplement de la tension mammaire et ça c'est cool. Donc, faut pas non plus se faire un tableau de la montée de lait atroce, hyper difficile. Mais voilà, il peut y avoir des montées de lait, effectivement, où il y a de l'engorgement et où il faut agir pour pouvoir se soulager de cet inconfort, quoi.
Ça marche. Alors, comme tu viens parler des problèmes d'engorgement, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on peut faire en cas d'engorgement ? Est-ce qu'il y a des petites astuces à connaître ?
Donc, en cas d'engorgement, pour soulager la douleur et l'inconfort que ça provoque, on peut appliquer donc du froid, mais entre les tétés, et du chaud au moment de la tétée pour faciliter en fait l'écoulement du lait.
Oui, pour dilater un peu en fait.
C'est ça, ça dilate les canaux et ça permet au lait de couler plus facilement. Il faut quand même faire ce dont on a parlé précédemment, c'est-à-dire la contrepression aréolaire pour libérer les canaux. Mais si on fait la contrepression aréolaire et puis qu'on applique du chaud une fois que les canaux sont libérés pour aider à l'écoulement du lait, ça marche plutôt bien.
Donc ça, on est bien d'accord, ce que tu viens d'expliquer sur la façon d'aider à drainer le sein avec la compression, le chaud, le froid en fonction des moments, etc. C'est vrai finalement à n'importe quel moment, même si c'est pas au moment de la montée de lait. Plus tard, s'il y a un engorgement, on fait la même chose.
Oui. L'engorgement, en fait, il va être dû souvent à un bébé qui va espacer les tétés et du coup, bah, les seins qui vont se retrouver beaucoup plus remplis. Ou alors, c'est des seins qui sont pas suffisamment drainés, vidés. Alors, ça peut être parce que le bébé a une tétée inefficace, une succion inefficace, je veux dire. Mais voilà, souvent, l'engorgement, c'est quand le bébé commence à espacer 3-4 heures tout à coup. Et pouf, en fait, on est dans un autre rythme. Et donc, le temps que le corps s'ajuste, il peut y avoir de l'engorgement, effectivement.
Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire pour gérer l'inconfort de cet engorgement ?
Dans ce qu'on peut faire pour l'inconfort, donc il y a le froid entre les tétés, le chaud pour l'écoulement du lait. Et puis, le drainage, peut-être un petit peu plus fréquent que ce qu'on faisait d'habitude pour bien vider. Ou tout simplement, quand je dis drainage plus fréquent, c'est pas forcément utiliser un tire-lait, mais ça peut être au moins masser, faire de l'expression manuelle pour vider un peu le surplus. Et de toute façon, le corps, il va compenser. En général, quand un bébé tout à coup commence à espacer un peu et que ça se reproduit le jour suivant, il faut à peu près 48 heures au corps pour se dire « Ah bon, là, il faut ralentir un peu parce que bah, finalement… » Le bébé est en train d'espacer un peu les tétés, il n'y a plus besoin de produire à ce point ou à ce moment-là, parce que parfois, on a la chance qu'ils espacent un peu dans la nuit. Et donc, le corps sait que la nuit, il produit un peu moins à ce moment-là que en journée.
Ça, c'est dans l'idéal, ça, c'est les bébés.
Oui, c'est dans l'idéal. Il y en a qui ont de la chance.
Mais ça arrive.
Et oui, et dans les positions de repos, du coup, quand on se retrouve dans une situation d'engorgement, il vaut mieux privilégier les positions de repos à plat dos. Parce que, bah justement, plus on va être à plat dos, plus il y a l'œdème. Surtout dans les engorgements qui sont dus à la montée de lait, plus l'œdème va être refoulé vers l'arrière. Et puis après, on peut toujours prendre du paracétamol pour soulager la douleur si vraiment c'est très douloureux.
D'accord. Est-ce que, par exemple, en cas d'engorgement, il y a des positions d'allaitement qui vont potentiellement aider plus que d'autres ou ça joue pas forcément ?
Non, pour l'engorgement, pas véritablement de positions qui vont aider. Il faut simplement vider un peu plus le sein. Mais il n'y a pas vraiment de position. Ça va être plus pour les crevasses que le positionnement va être très important et très aidant.
Tu m'as à nouveau devancé, mais donc voilà, comme tu évoques le sujet des crevasses, on va donc faire le point sur ce sujet. Peut-être que tu peux commencer par nous expliquer ce que c'est qu'une crevasse, comment elle s'installe, qu'est-ce qui peut aboutir à une crevasse, comment les prévenir et puis quand elles sont là, ben, qu'est-ce qu'on fait ?
Une crevasse, ça va être une lésion du mamelon qui va apparaître à cause d'un frottement, quoi, on va dire, d'un frottement inapproprié. Donc, sur un premier allaitement, ça va être assez courant d'avoir des crevasses parce qu'on est dans l'apprentissage de comment se positionner avec son bébé. Le bébé lui-même, de toute façon, à chaque fois, à chaque allaitement, dans l'apprentissage de comment bien ouvrir sa bouche, bien se positionner sur le mamelon. Et les seins n'ont jamais été soumis à ce type de sollicitation. Quand le bébé naît, il va téter une dizaine, douzaine de fois par jour. Donc, c'est quand même quelque chose auquel le mamelon n'a jamais été soumis jusqu'alors. Donc, il est normal qu'il y ait de toute façon une sensibilité au départ, sur les premiers jours de l'allaitement, maximum. Le temps qu'on s'habitue à vraiment de crevasse, il y a une sensibilité douloureuse qui est considérée comme normale jusqu'à deuxième, quatrième jour. Et puis, pendant la tétée, on dit que on peut avoir une sensation un peu désagréable et une hypersensibilité douloureuse entre 30 secondes et une minute, quoi, la première minute. Mais après, ça doit s'estomper. Si on sent que cette hypersensibilité douloureuse est toujours là malgré la minute de succion passée, c'est que très probablement l'enfant n'est pas bien positionné et qu'il est en train, avec le frottement de sa langue, probablement en train d'abîmer le mamelon. Donc, c'est pour ça qu'on dit que le premier traitement de la crevasse, c'est le repositionnement de l'enfant au sein pour qu'il soit suffisamment bien positionné sans blesser le mamelon de la maman.
Par rapport aux positions d'allaitement, quelles sont celles qui vont être plus faciles à mettre en place ou qui sont mieux en général dans ce cas-là précisément ?
Les positions qui vont aider à la prise du sein, ça va être par exemple la madone inversée parce que ça va permettre à la maman d'avoir la main du même côté que le sein qui est libre pour pouvoir faire, entre guillemets, pincer son sein et faire donc un profilé de sein le plus petit possible pour que l'enfant, quand il ouvre grand sa bouche, puisse prendre une grande bouchée de sein. Donc ça, il faut essayer de regarder peut-être des vidéos en tapant madone inversée pour bien comprendre. En fait, c'est la main du même côté que le sein qu'on donne qui va faire la pince du sein. Il faut pas vraiment pincer trop proche de l'aréole. Il faut vraiment se mettre large, en fait, et faire un profilé de sein
pour que ce soit plus aérodynamique pour la bouche du bébé, quoi.
C'est ça. Donc, la madone inversée, il y a aussi la position du ballon de rugby qui peut être bien parce que bah du coup pareil, on a la main plus dégagée pour pouvoir faire un profilé de sein et puis accompagner son bébé avec l'autre main dans le positionnement. Ce qui va être important, c'est vraiment de présenter le mamelon sous le nez du bébé pour que le bébé ait vraiment cet instinct d'ouvrir grand sa bouche et d'aller chercher grand, parce que si on le met devant la bouche, en fait le risque c'est qu'il ouvre un peu puis qu'il pince le mamelon, et donc là on n'est pas dans un bon positionnement. Donc vraiment mamelon sous le nez pour obliger l'enfant à ouvrir grand sa bouche. Et puis quand on fait le profilé de sein, faire attention à comment s'ouvre la bouche du bébé, parce que en fonction du positionnement qu'on a, il faut bien positionner sa main pour que le sein soit dans un profilé le plus petit possible par rapport à l'ouverture de bouche. Parfois on a tendance à faire avec par exemple le pouce et l'index au-dessus, avec un bébé qui est en madone, et ben le profilé de sein ne sera pas le plus petit possible pour l'enfant. Il faut bien mettre sa main par-dessous avec le pouce et l'index de part et d'autre, à droite et à gauche de l'aréole quand on est en madone inversée. Donc, il faut vraiment observer ce qui se passe entre le profilé du sein et la bouche du bébé, et puis bien positionner le nez sous le mamelon pour qu'il ait envie de garder sa bouche grande ouverte.
Ça marche. Et alors, si malheureusement, malgré tout ça, il y a des crevasses, qu'est-ce que les mamans peuvent faire pour aider à ce qu'elles guérissent, tout simplement ?
Alors, juste préciser qu'on a parlé donc de la position de la bouche du bébé au sein et de la position que la maman va faire pour faciliter la prise du sein, mais qu'il est bon, quand on n'arrive pas à trouver une position qui est correcte, malgré le fait qu'on ait fait attention à cette ouverture de bouche et qu'on fasse un profilé de sein correct et tout ça, faire vérifier que le bébé n'ait pas un frein de langue, par exemple, parce qu'un bébé qui va avoir un frein de langue, Souvent, c'est un bébé qui, de toute façon, du fait de son frein de langue, va exercer plus de friction sur le mamelon et potentiellement des crevasses. Et des fois, on se retrouve dans des situations avec des crevasses qui traînent à cicatriser. Et parfois, on se rend compte que c'est à cause d'un frein de langue. Alors, un frein de langue n'est pas toujours la cause des crevasses. Il ne faut pas se dire, ah bah, ça y est, j'ai des crevasses, il a un frein de langue. Il y a des bébés qui ont des freins de langue et qui s'en sortent très bien dans la succion quand même. Et en fait, c'est ça qui est important, c'est que tant que ça ne pose pas de problème dans l'allaitement, dans le positionnement, etc., même si le bébé a un petit frein de langue qui a été détecté, c'est pas un souci. Par contre, si on voit que ça pose souci, qu'il y a des douleurs persistantes, des crevasses persistantes, ça vaut le coup de s'interroger sur la prise en charge de ce frein de langue.
Oui, bien sûr. Le frein, ça peut les empêcher aussi d'ouvrir bien grand la bouche. Et comme tu disais, c'est important qu'ils, s'ils ne peuvent pas ouvrir la bouche correctement, ils ne peuvent pas prendre le sein correctement, quoi.
Exactement. Donc, il faut vraiment voilà, observer ce qui se passe et adapter en fonction. Et donc, quand on a les crevasses, donc la prévention, ça va être vraiment ça, être très attentif dès le départ au positionnement et à ses ressentis, à ce qu'on sent. Pas hésiter à faire lâcher le bébé si on sent que vraiment, au bout d'une minute, ça passe pas, c'est très désagréable. C'est un apprentissage pour le bébé, donc on décroche le bébé du sein. Parfois, on a des scrupules à le décrocher en se disant « Ah ben non, mais il a enfin pris, je vais pas le décrocher. » Non. Si, en fait, c'est un apprentissage. Donc, on met son petit doigt entre la commissure de la lèvre du bébé et on passe entre ses gencives pour qu'il lâche le mamelon, parce que sinon, il risque de tirer sur le mamelon et ça fait mal. Donc, on lui fait lâcher le sein, on se repositionne, on repropose le mamelon sous le nez et on fait en sorte qu'il ouvre grand sa bouche pour que lui aussi, en fait, c'est un apprentissage pour lui, il comprenne comment on s'accroche bien sur le sein. Voilà, donc ça, c'est pour la prévention. On peut s'équiper d'une pommade à base de lanoline pour bien hydrater le sein. Donc, on peut mettre une goutte de lait à la fin de la tétée sur son mamelon. Et puis, si on sent que c'est un peu sensible, anticiper en hydratant bien avec la lanoline. En termes de traitement véritable de la crevasse, il existe donc la lanoline, il existe des crèmes à base de miel stérilisé et il existe aussi des pansements à l'hydrogel. Et puis, bien sûr, il y a le lait maternel dont on entend souvent parler pour ses vertus miracles, cicatrisantes et autres. Il faut savoir qu'il n'y a aucun produit qui a véritablement fait preuve de sa supériorité. On sait, par contre, que tous ces éléments, lanoline, miel, hydrogel ou le lait, ça va fonctionner plus ou moins en fonction des femmes. Donc, il faut essayer et voir. La lanoline, c'est utilisé depuis très longtemps et ça marche quand même plutôt bien. Le miel, l'avantage, c'est que ça a des vertus antiseptiques, antibactériennes. Donc, c'est pas mal quand on a des crevasses qui sont déjà là. Et en plus de ça, si on a d'autres lésions, je pense aux lésions du périnée, des éraillures ou même une cicatrice de césarienne, c'est en général une crème qu'on peut mettre un petit peu sur tous les types de lésions. Donc ça fait un peu multifonction, ce qui est pas mal. Et les pansements occlusifs à l'hydrogel, il faut essayer. Il y a des femmes chez qui ça fonctionne effectivement très bien aussi. En tout cas, les principes, c'est de maintenir une hydratation optimale au niveau de la crevasse. Donc, on peut mettre effectivement le lait de fin de tétée plus de la lanoline. Il faut permettre la cicatrisation tout en évitant le dessèchement. Donc, on va éviter qu'il y ait des croûtes qui se forment. Donc, on peut faire des pansements qu'on dit humides. C'est-à-dire qu'on va mettre la lanoline ou son miel, ou on peut alterner un coup lanoline, un coup miel, par exemple. Et puis, mettre un petit carré de film alimentaire sur le mamelon qui va permettre d'éviter les frottements et de garder le mamelon dans un milieu humide. Après, il y a des femmes qui vont préférer rester un peu à l'air. Donc, soit on peut rester à l'air, mais il faut bien faire attention à l'hydratation parce que on ne veut pas qu'il y ait de dessèchement et de croûte. Et il y a d'autres femmes qui vont préférer mettre, par exemple, des espèces de petites coques trouées qui vont permettre d'éviter les frottements, mais d'assurer quand même un minima, une aération. Donc, on est un peu dans un entre-deux, entre le milieu humide et le à l'air complet. Et ces coques-là, elles ne sont pas supportées par toutes les femmes parce que ça fait quand même une espèce d'épaisseur qui peut plus ou moins comprimer. Donc, ça dépend où on en est aussi dans son allaitement. Si on est en pleine montée de lait avec des crevasses, ça ne va pas être l'idéal. Mais si c'est pour soigner une crevasse qui perdure un peu alors que la montée de lait est passée, ça peut être une option aussi.
D'accord. Et tout ça, que ce soit l'adnoline, la crème à base de miel ou les pansements d'hydrogel, tout ça, ça se trouve en pharmacie.
Oui.
Et c'est pas sur ordonnance, ça peut s'acheter.
Oui, c'est en libre service, oui, tout à fait.
D'accord. OK.
Et quel que soit le traitement, il faut que les douleurs s'améliorent en 7 à 10 jours maximum. Une crevasse qui perdure au-delà de ça, c'est qu'il y a un souci, probablement au niveau du positionnement, au niveau de la succion du bébé. Peut-être que c'est une crevasse qui s'est un peu surinfectée. Enfin, voilà. Il faut essayer de comprendre pourquoi ça perdure.
À ce moment-là, on consulte un professionnel qui est formé à l'allaitement.
Tout à fait.
Ça marche. De toute façon, je remettrai ça, les liens IBSCLC
et le DIU de lactation humaine.
Oui, ça c'est bien de préciser les deux parce que le DIU, bah, c'est français et l'IBCLC, oui, c'est la certification internationale, mais les deux professionnels sont habilités à mener des consultations d'allaitement.
Ok. Que faire en fait si la maman a mal quand le bébé tète? Donc on a dit, c'est principalement, on va regarder la position du bébé. Est-ce qu'il y a d'autres choses éventuellement à regarder que la position si ça fait mal, ou c'est forcément entre guillemets la position?
Si elle a mal au niveau du mamelon au moment de la tétée, très souvent ça va être sur une histoire de position. Il faut comprendre un petit peu comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe en fait, pourquoi cette maman a mal au moment de la tétée. Ça peut être dû au positionnement, mais parfois ça peut aussi être dû à un bébé qui fait une dépression intrabuccale très importante. Il y a des bébés qui ont une succion très, 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 très importante. Ils tètent très, très fort et ça fait une dépression intrabuccale qui est importante et qui peut faire mal. Ça arrive dans certains cas. Et là, malgré la position, on ne peut pas faire grand-chose. Alors, ce qui va pouvoir être soulageant parfois, c'est l'utilisation de bouts de sein pour la maman. C'est vrai qu'on n'aime pas trop les bouts de sein parce que le risque d'un bout de sein, en tout cas, il faut l'utiliser à bon escient et sous contrôle d'un professionnel qui dira « oui, là, je pense qu'on a fait le tour de la question du positionnement de ceci, de cela. Je vois pas trop, mis à part le fait que peut-être c'est qui tire, entre guillemets, trop fort. On peut essayer ça pour permettre à la maman de poursuivre son allaitement et de la soulager parce qu'il y aura pas véritablement d'autre option. Après, faut pas diaboliser non plus le bout de sein si on a besoin d'utiliser un bout de sein parce que on a des crevasses et que vraiment les mises au sein sont très difficiles, très douloureuses, qu'on n'arrive pas à trouver de position qui permette d'alimenter son bébé sans trop de douleur. Il vaut mieux aussi, là encore, utiliser un bout de sein qui va permettre d'aider à la cicatrisation parce qu'il y aura plus ces frottements. Parfois même, on est même obligé, il y a des mamans qui font le choix de tirer leur lait un temps pour mettre au repos totalement le mamelon parce qu'on a des crevasses tellement importantes que qu'il vaut mieux mettre au repos le sein le temps que ça cicatrise un peu. Mais si on a besoin d'utiliser un bout de sein, ce qui va être important, c'est de bien l'utiliser, c'est-à-dire de s'assurer que le bébé s'accroche quand même correctement sur le sein, c'est-à-dire avec une bouche bien grande ouverte, pour pas qu'il prenne, entre guillemets, de mauvaises habitudes de s'accrocher que sur le bout du mamelon, déjà pour quand on va les enlever et reprendre l'allaitement. Et en plus de ça, c'est que plus il va s'accrocher que sur le bout de sein, moins la stimulation de l'aréole va être correcte. Et du coup, le risque, c'est d'avoir une production de lait qui ne va pas être véritablement en adéquation puisqu'il y aura une stimulation qui est moindre parce qu'il est mal accroché. Donc vraiment, s'assurer, si on utilise un bout de sein, qu'on est quand même exigeant sur le positionnement de la bouche du bébé avec le bout de sein.
Ok, donc oui, vraiment, l'utilisation de bout de sein, ce n'est pas à faire seul, sans avoir consulté. Il faut être accompagné pour être sûr qu'il y en a besoin, et puis aussi pour vérifier qu'on les utilise bien.
C'est ça, vérifier la nécessité, voilà, la bonne indication de l'utilisation de ce bout de sein, parce que dans la grande majorité des cas, alors c'est pareil, des fois, il y a des mamans qui ont des mamelons un petit peu plats. Ce n'est pas une indication de bout de sein, parce que si on fait correctement le profilé de sein, qu'on amène le mamelon sous le nez du bébé, qu'il ouvre bien sa bouche, en fait, il va modeler le mamelon. Quand on a un mamelon qui est rétracté, là par contre, un mamelon qu'on appelle ombiliqué, là c'est différent. Le mamelon, on a beau essayer de le faire sortir, il rentre. Donc là, il n'y a pas de sujet, le bout de sein va être une nécessité. Mais si c'est un mamelon plat, quand il y a des professionnels qui disent « Ah, mais vous avez les mamelons complètement plats, votre bébé, il peut pas y arriver », c'est faux. Il faut se donner les moyens d'essayer, lui laisser l'opportunité d'essayer et nous d'accompagner avec les bonnes positions pour qu'il arrive à faire ressortir le mamelon. Parce que souvent, ces femmes qui ont un mamelon plat, en fait, quand elles stimulent un peu, le mamelon, il ressort un peu et donc on y arrive. Voilà. Donc oui, le bout de sein, pas dégainer dans la facilité de se dire ah bah j'ai un, il y a un mamelon plat, hop là le bout de sein, il y a un début de crevasse, hop là le bout de sein. Non, faut essayer d'abord de repositionner, de voir et si ça va pas, si ça peut être une aide pour passer un cap, ok, mais vraiment s'assurer, ne pas négliger la position du bébé quoi qu'il arrive.
Ok, ça marche. Le dernier petit point qu'on devait aborder aujourd'hui, c'était parler de la mastite. Qu'est-ce que c'est qu'une mastite ? Et puis, qu'est-ce qu'on fait si on pense avoir une mastite ?
C'est vrai que la mastite, elle va souvent arriver au cours du premier mois, donc finalement dans le début de l'allaitement et parfois de manière assez précoce dans l'allaitement, parce que la fatigue va diminuer la réponse immunitaire du corps déjà. Et puis parce que souvent on se retrouve parfois avec des engorgements et l'engorgement va être un facteur favorisant de la mastite. On a souvent des crevasses et les crevasses vont pouvoir être une porte d'entrée infectieuse et donner une mastite. Donc effectivement, c'est important de parler de la mastite parce que c'est un désagrément de l'allaitement qui est quand même assez courant et qui peut arriver de manière assez précoce finalement dans l'allaitement. Donc la mastite, qu'est-ce que c'est ? C'est quand tout à coup, au niveau du sein, on a un endroit du sein qui devient un petit peu dur, qui est douloureux, sur lequel on observe une rougeur qui peut être très discrète au départ, ça peut être juste la taille d'un rond, d'une pièce de monnaie, petite rougeur, et souvent ça arrive sur le cadran extérieur du sein. Souvent c'est là, mais ça peut aussi être localisé à d'autres endroits, mais souvent c'est là. Et parfois, il peut aussi y avoir des atteintes plus étendues, c'est-à-dire du coup, tout à coup, suite à, par exemple, un espacement de tétée à J7, tout à coup, le bébé fait 4 heures de pause dans la journée ou dans la nuit, et la maman se réveille avec les seins très engorgés, et puis une rougeur sur tout un endroit du sein, douleur, elle peut aussi se sentir très fatiguée, fébrile, souvent ça donne soit un petit fébricule à 38, soit carrément de la fièvre à 39, voire 39,5. Des frissons, tous des symptômes un peu pseudo-grippaux. Là, faut que ça mette la puce à l'oreille de dire qu'il y a un début de mastite. Donc, pas de panique, ça se soigne très bien et dans la majorité des cas, sans traitement médical. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut drainer, en fait, le traitement, ça va être le drainage du sein. Donc, drainer le sein à fond, c'est-à-dire mettre le bébé au sein comme à son habitude, mais sur le sein où il y a la rougeur, la douleur, compléter la tétée du bébé par du tire-lait, par exemple, pour être sûr de bien vider le sein à fond. Et en faisant un drainage optimal du sein pendant 24 à 48 heures, logiquement, il y a une nette amélioration déjà au bout de 24 heures, voire au bout de 48 heures, il n'y a plus les signes qu'il y avait. Et donc après, on n'arrête pas tout d'un coup comme ça, mais quand on sent que ça va mieux, après on adapte. On voit si on sent qu'on a besoin de tirer ou pas. Mais en 24-48 heures, il doit y avoir une nette amélioration. S'il n'y a pas de nette amélioration dans ce laps de temps-là, là, c'est qu'il faut peut-être passer sur un traitement médical et donc des antibiotiques. Donc là, c'est bien de, pareil, d'aller voir quelqu'un qui est formé. Enfin, souvent, les sages-femmes, quand même, elles savent quoi prescrire. Donc souvent, les sages-femmes, elles ont quand même l'habitude des mastites, donc elles savent, ouais, elles s'y connaissent. Et donc, dans les critères d'aggravation, c'est-à-dire quand ça ne s'améliore pas en 24-48 heures, c'est souvent qu'on a une atteinte plus étendue, c'est-à-dire pas juste une petite rougeur, mais peut-être plus deux placards rouges à deux endroits du sein. Ça, c'est ce qu'on appelle une atteinte étendue. Donc quand on a une atteinte plus étendue, là, il vaut mieux ne pas hésiter à démarrer les antibiotiques rapidement si au bout de 24 heures, 48 heures max, on sent que ça ne s'améliore pas, qu'on a toujours de la fièvre, qu'on a toujours très mal et qu'il y a ces placards rouges qui restent. Voilà, on doit vraiment avoir une amélioration notable, sinon on démarre des antibiotiques. Si on a une crevasse persistante sur ce sein, c'est quand même une porte d'entrée infectieuse. Donc ça aussi, si on n'a pas d'amélioration notable
En 24-48 heures, il vaut mieux démarrer des antibiotiques. Oui, c'est les principaux entre guillemets critères d'aggravation qui vont faire que il vaut mieux démarrer rapidement des antibiotiques.
Est-ce qu'il y a d'autres choses à savoir pour aider en cas de mastite?
C'est important de ne pas négliger le repos. Faut pas hésiter à demander de l'aide pour pouvoir se reposer parce que ça demande beaucoup d'énergie et comme on est dans une espèce de syndrome pseudo-grippal. Bah, c'est pas facile pour la maman. Il faut pas hésiter à prendre du doliprane si on a trop de fièvre, à appliquer en local du chaud ou du froid pour la douleur soulagée, en fonction de ce qui soulage le mieux la maman. Et on a le droit de prendre un anti-inflammatoire sur les 24-48 heures, justement, pour aider un peu. Et puis après, bah, effectivement, si ça s'améliore pas, bon, on passera sur de l'antibiothérapie, mais voilà, c'est possible. Et puis, ne pas négliger les mesures d'hygiène. Par exemple, changer ses coussinets d'allaitement si on en porte après chaque tétée, si on utilise bout de sein ou des coquillages, les stériliser, changer de soutien-gorge régulièrement, enfin voilà, toutes ces mesures d'hygiène qui vont permettre de ne pas entretenir le problème, quoi.
D'éviter l'infection, quoi.
On entend parfois parler de la position de la louve. Est-ce que c'est utile dans le cas de la mastite et qu'est-ce que c'est exactement que cette position ?
Alors, c'est pas véritablement sur la mastite, mais souvent la mastite peut être couplée à un canal qui est bouché. C'est-à-dire que si on sent une induration et qui reste malgré le drainage ou la tétée, c'est qu'il y a probablement un canal qui est bouché et donc toute une partie du sein qui se vide pas bien.
D'accord.
Alors là, l'astuce dans les problèmes de canaux bouchés et donc d'induration persistante comme ça du sein, c'est de faire en sorte que le menton du bébé soit dirigé vers la zone qui est indurée. Donc, il se peut que la louve, par exemple, bah, ça va dépendre comment on est, mais par exemple, imaginons la situation la moins facile pour la maman, c'est que si son induration est sur le haut du sein, là, il faut qu'elle s'imagine mettre son bébé avec le menton du côté vers le haut du sein, donc elle se dit « mais comment je vais faire ? Mon bébé doit téter à l'envers ». Donc là, on se met soit allongé sur le côté, finalement, tête bêche, pour que le bébé puisse téter la tête, entre guillemets, la tête à l'envers. Soit on peut faire la louve, donc effectivement être en espèce de quatre pattes au-dessus de son bébé, mais avec son bébé, pareil, tourné pour qu'il ait le menton du bon côté. Donc voilà, en fait, le principe, c'est pas vraiment que la position, parce que la louve, on peut la faire très bien avec le bébé dans le même sens, avec le menton. Donc ça va vraiment, c'est vraiment une histoire de menton tourné vers la zone qui a besoin d'être drainée.
D'accord. Je pense que cette fois-ci, on a fait le tour. Merci beaucoup.
Je t'en prie. Merci beaucoup.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Nous espérons que vous repartez avec plein de solutions pour mieux gérer les débuts de l'allaitement et les petits désagréments qui peuvent arriver. Pour rappel, en cas de difficulté, n'hésitez pas à consulter un professionnel qualifié. Je vous remets les liens vers les listes des professionnels qualifiés dans la bio. Si l'épisode vous a plu et que le concept vous plaît, alors parlez-en autour de vous. Faites voyager ce podcast et diffusez l'information. Je vous retrouve donc dans 15 jours pour un épisode consacré à la diversification alimentaire, une nouvelle grande étape pour vos bouts de choux. Nous y ferons le point sur les modalités de la diversification alimentaire dite classique. Quand, comment, par quoi commencer? Bref, nous répondrons avec mon invité à toutes les questions que vous vous posez sur le sujet. En attendant, prenez soin de vous et de vos bouts de choux. Je laisse le mot de la fin à mes enfants.
Merci. Bye bye. Bonjour. N'hésitez pas à vous abonner et à partager.